Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Marie Binet.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Marie Binet, conseillère conjugale et familiale, sexologue, psychopraticienne. Eh bien, je vous retrouve ce matin sur le thème « C'est la vie, la mort est là, vive la vie ». Vivre et mourir, bien ou mal vivre et mourir. Chacun de nous sait que la mort est au bout du chemin sur Terre. Aborder ce sujet de la mort est tout autant intime que sociétal. Il demande délicatesse tout autant que vérité. À tel point qu'on dit souvent que la personne est partie, a disparu, au lieu de dire qu'elle est morte. Anthropologiquement et philosophiquement, cela questionne notre réalité et notre finitude d'humain, chacun donnant une dimension spirituelle ou non. Pour aborder ce sujet délicat en période de Pâques, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau mon confrère Bernard Coulot, psychologue dans le Tarn et expert auprès des tribunaux. Bonjour Bernard.
Bonjour Marie.
Et nous allons parler au téléphone avec Vanessa Cordier, qui est mariée, mère de famille et auteure du livre « Marie-Lys, notre enfant soleil » aux éditions du Centurion. Je vous disais que c'est un sujet bien délicat que nous abordons aujourd'hui, donc j'espère que nous allons pouvoir l'aborder de manière vivante. Et je vous propose tout de suite d'écouter Vanessa Cordier. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour Marie et bonjour toute l'équipe de Radio Présence.
Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous propose de nous partager votre chemin sur ce sujet que je disais bien délicat et qui peut être douloureux et qu'en même temps vous avez pu vivre en couple, en famille, autour de l'accompagnement de votre petite Marie-Lys.
Oui, donc en effet Marie-Lys était malade. Donc elle avait un syndrome polymalformatif qui a été identifié voilà progressivement déjà il y a des syndromes enfin des symptômes vus lors de l'échographie puis ensuite lorsqu'elle est née pas mal de soucis donc il y a une opération du cœur qui a été programmée assez un an environ et malheureusement elle l'a pas récupérée après coup et donc elle est décédée le jour de ses 13 mois donc on l'a accompagnée et en fait, ça a été très beau et très fort. Donc du coup, les médecins après l'opération, après la chirurgie du cœur, nous ont jamais parlé de mort, ce qui nous a un peu surpris sur le moment, en disant toujours, voilà, je pense qu'ils ne savaient pas vraiment non plus, en disant elle va y arriver, elle se bat. Donc nous, évidemment, on s'accrochait à ses paroles, même si on sentait qu'elle récupérait pas bien. Donc on a toujours été dans cette attente qui nous fait tenir. Et puis après je me suis dit que de toute façon la mort elle peut pas se préparer en amont. Enfin elle est tellement impensable, imaginable et on la vit. Voilà ce chemin d'accompagnement. On est porté hein, au présent. J'avais appelé Anne-Dauphine Julien hein, qui a écrit le petit pas sur le sable mouillé, qui a aussi accompagné ses deux filles très malades. Et qui m'avait dit qu'en effet, ça n'avait rien d'imaginer des scénarios autres, d'être présent chaque instant et être vraiment avec la personne qui est en train de partir pour savourer ces moments si précieux et ne pas avoir de regrets ensuite. Je pense à être pour le deuil. On lui avait dit aussi à une petite fille de bien nous attendre et ce qu'elle a fait. Donc, ça a été vraiment très important pour nous de pouvoir être là au moment de son départ. Une nuit, voilà, l'hôpital a appelé et on nous a dit voilà que c'était la fin. Enfin, je ne sais plus comment ça a été dit. Et c'est vrai que ça s'est fait très naturellement, un peu comme les automates. Je pense que c'est le mécanisme aussi dont parlera souvent le psychologue. Voilà, le cerveau se protège, une sorte de déni. Enfin, on ne comprend pas trop ce qu'il vit, donc on agit machinalement sans. Bon, j'ai quand même eu la présence d'esprit voilà, de prendre une petite robe pour sa dernière tenue. Donc on est arrivé, donc on a pu lui parler, lui chanter sa petite cantine, lui confier des intentions. Et finalement, elle a expiré. Et c'est vrai que ça a été très beau, très doux. J'ai souvenir d'une très grande paix, en fait. J'appréhendais ces moments qui ont été vraiment très beaux, comme si elle s'était endormie hein, dans les bras du Seigneur. Et Voilà, donc j'ai un très beau souvenir et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai plus peur de la mort. Enfin, je vois que c'est naturel, hein, ça fait partie de la vie. On va tous partir en étant chrétien. Bon, on a cette foi aussi, hein, qu'on rejoint la lumière, le ciel, le Seigneur. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Ce que j'entends, Vanessa, c'est que vous le dites très bien, c'est inimaginable, c'est inconcevable pour notre esprit humain, et que finalement, vous avez pris le parti de vivre au présent, c'est-à-dire de vivre la vie jusqu'au bout.
Oui, voilà, jusqu'à son dernier souffle, hein, être avec elle, lui parler, la regarder, la porter dans nos bras, la caresser. Et même après coup, il y a quand même l'infirmière, la première fois, qui nous a dit, bah, quand voilà, elle a décédé, elle est arrivée, ça y est, elle est morte. Hein. Et j'ai apprécié quand même qu'elle dise ce mot, parce qu'on était un peu dans une sphère, enfin, c'est irréel, on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, elle m'a dit aussi de bien faire son dernier soin. Et je trouve que ces mots étaient importants, enfin, pour moi, pour que je prenne conscience quand même de la réalité. Donc, de savourer aussi ce dernier soin, de bien la nettoyer, lui mettre du parfum, voilà, jusqu'au bout, comme vous dites, d'aimer et d'accompagner, de choyer notre enfant, d'honorer aussi ce corps, hein, qu'elle j'avais donné la vie. Et ça fait partie, je pense, aussi de. Ça aide pour le deuil, de l'accompagnement, hein, de la personne. Jusqu'à la fin.
Alors vous dites que les mots ont été prononcés par l'infirmière de manière vraie. Comment ça a pu être parlé en couple et en famille autour de votre petite Marie-Lise?
Alors après coup, donc on est rentré, donc c'est tout le matin pour l'annoncer aux enfants et qu'ils viennent du coup la voir, le dire au revoir. Donc on est allé, évidemment on était en vérité, de toute façon ça ne pouvait pas se cacher. On a toujours pris soin, voilà, de rien cacher de la maladie, des difficultés, hein, graves de nos petites filles à nos enfants. Donc on leur a dit, voilà, votre petite sœur est partie au ciel, on va lui dire au revoir. Donc après coup, je me dis, ça a dû être un réveil quand même hyper violent, même si on était dans la paix, dans la douceur. Bon, on leur a ramené des croissants, enfin un bon petit déjeuner. Mais après coup, ils nous ont dit, oh là là, et de toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. De toute façon, il fait un tel choc, le décès. Ils ont regretté aussi après coup, ils nous ont dit de ne pas avoir été là pour son départ. Mais voilà, nous, ça s'est fait dans la précipitation, et puis on ne savait pas comment ça se passerait. Et puis après coup, je regrette pas qu'on ait vécu ça, que tous les trois, malheureusement, on m'a arrêté là. Donc, ce moment particulier, et puis voilà, mais après, c'était important pour les enfants d'aller la voir, dire au revoir, l'embrasser. Puis c'est vrai qu'elle était toute jolie, toute mimi. Enfin, rien à voir avec les images que je m'étais faites d'un corps mort. Pour moi, c'était un bébé endormi, quoi. Et même après coup, je suis allée tous les jours la voir à la chambre mortuaire. J'avais besoin, voilà, de encore ce contact avec elle, le dire au revoir, voilà, jusqu'à ses obsèques. Voilà, du coup, ça m'a permis aussi de m'habituer, d'apprivoiser la séparation, hein, définitive, et de réaliser, je n'allais pas passer ma vie à aller voir mon enfant dans sa chambre mortuaire. Il fallait bien, voilà, que son corps reparte, on redeviendra poussière, et que de toute façon, son âme était vivante. Et donc, le temps nécessaire, je pense, c'était important pour nous de prendre le temps de bien l'accompagner jusqu'au bout et jusqu'à la mise en bière définitive.
Il y a toute une sorte de progressivité, mais même de ritualisation dans ce que vous dites, hein, c'est-à-dire accompagner, mais ça vous accompagne vous aussi, avec du coup chacun qui vient dire au revoir, qui vient voir le corps, l'acceptation de cet endormissement, mais qui est éternel, je dirais, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réveil, et je dirais ce qui vous permet à vous aussi. De vivre dans ce présent, d'acceptation de ce présent-là, en fait.
Oui, puis en même temps, il y a des moments où je me disais, est-ce que c'est un rêve? Il y a toujours ce mécanisme du cerveau, je pense, de protection, hein, du déni. On ne réalise pas vraiment. À la fois, on sait, puis on ne sait pas. Et puis aussi, de repasser en boucle. Hein. Ça a été long. Bon, j'ai lu aussi que c'était apparemment normal. Voilà, les événements précédant le décès, ça a été, combien de temps, peut-être 3 semaines, 1 mois. Voilà, le cerveau a besoin de digérer quand même ce choc, de se remémorer, d'en parler beaucoup. Mais heureusement, bon, on est pris par l'administratif après, par la préparation de la cérémonie. C'est vrai qu'on a aussi organisé avec soin, donc des beaux chants, une belle messe, recevoir nos familles, un bon buffet. Et c'est vrai que ça nous met aussi dans l'action, ça nous garde dans la vie, toujours en lien avec la personne décédée. Et je pense que voilà, ça a aidé aussi, puis comme vous disiez, de marquer l'en revoir, donc de faire des dessins pour les enfants, d'apporter des fleurs. On avait fait un lâcher de ballon au cimetière. Donc des gestes forts, et du coup, c'est les souvenirs qui nous restent de ces moments. Moi, j'ai des bons souvenirs, ces ballons qui s'envolent au ciel, ce beau buffet, la belle messe, comme un mariage, quoi. Des épousailles entre notre petite fille, enfin voilà, qui retrouve le ciel. Donc, c'était pas du tout glauque, en fait, bon, malgré le chagrin. Mais ça peut être vécu de façon très belle et très forte, et ça fait partie de la vie. Mmh. Donc, du coup, je pense qu'on l'a vécu.
Merci Vanessa, votre témoignage est très fort. Vous exposez à quel point la mort n'est pas non plus forcément une fin. Il y a une continuité, et finalement c'est ce que vous avez pris comme chemin, c'est d'assurer une continuité. Après Marie-Lise est toujours là, et en même temps il y a une vie qui continue. Comment ça s'est vécu, ça, en famille, puisque la mort n'a pas été tabou dans ce que vous dites. Comment maintenant elle fait partie en effet de votre vie, de celle des enfants. Est-ce que ça se parle encore? Quelle expérience vous en tirez?
C'est vrai, oui, ils ont compris, hein, voilà, que la mort peut venir très tôt, hein, n'importe quand, qu'on est mortel, on a moins peur de la mort, et sinon, c'est vrai qu'elle reste très présente, hein. Il y a des photos, on fête son anniversaire d'anciennement, on en parle très facilement, avec plaisir. Il y a même juste après, donc son décès, on était parti, c'était l'été en vacances en Espagne, et donc c'est vrai qu'il disait à tous les gens de l'hôtel, oui, on a une petite sœur qui vient de mourir, donc les gens étaient un peu horrifiés, et en même temps, voilà, il y avait cette parole vraie, et des enfants qui sont du coup tout à fait, qui peut-être aussi choquer, parce qu'on est peut-être trop à l'aise maintenant avec la mort. Donc faire attention, hein, délicat, sans occulter, voilà, c'est vrai qu'elle nous manque, il y a des pleurs, mais on a cette espérance, et puis surtout on l'a fait vivre, hein. Donc on en parle souvent, et on a eu du mal à, enfin j'ai mis du temps à vider sa chambre, mais sa chambre était un lieu, voilà, on se retrouvait pour lire, pour parler d'elle, pour écouter de la musique, quand les gens venaient dans la maison, les enfants allaient montrer la chambre de Marie-Lise. Donc voilà, on sent qu'en effet, elle les accompagne encore.
Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de la mort après cette expérience?
Je dirais qu'en fait, c'est naturel. Quand on part, ça se fait naturellement. Bon, il peut y avoir des grandes souffrances, hein. C'est ça souvent qui fait peur sur des sets de maladies. Donc là, bon, après, c'est accompagné, hein, les soins palliatifs, les antidouleurs, la morphine et autres. Mais c'est aussi une leçon de vie. C'est ce que dit, je ne sais plus qui, un bouquin que j'avais lu, que tous ces lieux de fin de vie, de mouroirs ou autres, en fait, sont des lieux de vie. Et c'est ce que j'ai aussi découvert avec à l'hôpital et autres. Il y a tellement d'amour, de soins, d'intensité. C'est un présent. On vit les choses à 400%. On les vit plus pleinement que dans la routine. Donc en fait, ça fait des lieux, des moments très forts qu'il faut vivre jusqu'au bout, hein, ce passage. Et où l'amour, on a des grâces aussi, on a été énormément porté, on parle à la prière de nos proches aussi. Et ça se traverse. Et on en sort, on s'en remet. Oui, alors pour moi, ça me pensait « Ah, pense à l'après », je me dis « Comment je vais survivre, comment je vais vivre ça, je vais m'évanouir ». Enfin, j'avais imaginé plein de trucs. Non. Et pourtant, je suis très sensible, très anxieuse. Et voilà, je l'ai vécu.
Donc, c'est la surprise de finalement rester vivant, c'est ça?
Oui, puis avec encore plus de soif de la vie, de vouloir vivre, parce que notre temps est compté, on ne sait pas quand chacun partira. Profiter de chaque instant, dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime, être là, et voilà, savourer chaque instant précieux.
Je vous remercie beaucoup, Vanessa, de ce témoignage qui introduit vraiment avec beaucoup de richesse ce que nous allons continuer à discuter avec Bernard Coulot. Nous allons faire une pause et écouter Grand Corps Malade, nos disparus.
Pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs, on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année, nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui, pour une fois, est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Présence. Vivante Église, Marie Binet.
C'est la vie, la mort est là, vive la vie. Nous venons d'entendre un témoignage très touchant et aussi très riche de Vanessa Cordier. Bernard Coulot, lorsque l'on approche de la mort, on voit que nos notions d'espace et de temps sont bouleversées. Nous sommes face à un espace et un temps qui vont s'arrêter. Comment l'être humain a géré ça tout au long de son histoire jusqu'à maintenant?
Oui, c'est vrai que moi, je le répète, ce que tu disais, Marie, le témoignage de Vanessa Cordier est vraiment très fort, très touchant. Et je pourrais presque dire, elle a tout dit. On va essayer de reprendre un peu cela sur un versant peut-être un peu plus psy. Et puis la chanson ensuite de Grand Corps Malade qui dit que nos absents sont toujours là, qu'on est plus fort quand on est nombreux au moment de la mort, mais que c'est un chemin personnel, c'est un chemin intime, c'est un chemin individuel que nous faisons dans le deuil. Ce que je trouve très fort, et ta question rejoint un petit peu cela, c'est l'idée que oui, il n'y a pas de vie sans mort, et que effectivement, peut-être que c'est le fait qu'il y ait la mort, finalement, on ne sait pas quand, qui donne de l'intérêt au temps, Et comme le disait Vanessa, et Grand Corps Malade, ça justifie et ça nous invite très certainement à vivre l'instant, le présent, le plus pleinement possible. Là, dans ce que racontait Vanessa Cordier de cette petite fille, Marylis, qui était malade, les parents le savaient, les frères et sœurs devaient le savoir aussi. Quelque part, il n'imaginait pas la mort. Vanessa Cordier disait c'était impensable. Et en même temps, peut-être que le fait qu'elle soit malade, qu'elle ait été opérée du cœur, d'une certaine manière, à la fois les invitait à l'espoir et en même temps, quelque part aussi, et si elle ne s'en remettait pas. Et du coup, je crois, en écoutant le témoignage de Vanessa Cordier, qu'ils ont pris vraiment tout le temps, le couple, les parents et même les autres frères et sœurs de profiter de la présence de Marylis jusqu'au bout, lui témoigner de l'amour et prendre l'amour de cette petite fille jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça vraiment très beau et très fort dans son témoignage.
Vanessa disait qu'il y avait cet accompagnement et en même temps, après, tous les rituels, oui. Laver le corps, le parfumer, je dirais jusqu'au bout, ce corps qui marque notre présence, en fait, et qui marque aussi la dignité jusqu'au bout. Et finalement, tout au long de l'histoire, l'être humain a mis en place des rituels funéraires qui permettent non seulement de vivre au présent ce deuil, cette séparation, et en même temps, continuer de faire exister. Aller au cimetière, déposer des fleurs, c'est rester dans ce lien qui a existé, mais qui existe autrement, en fait, aujourd'hui.
Oui, peut-être qu'on peut dire, et encore, je ne suis pas très spécialiste des animaux, mais je crois que ce qui signe réellement l'humain et les cultures, les différentes cultures, c'est d'avoir toujours, je crois, pris soin de nos morts. Et effectivement, comme tu le disais, Marie, tous ces rites funéraires qui sont assez différents d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, mais n'empêche que le dénominateur commun, c'est accompagner la personne qui part, qui meurt, prendre soin de son corps le plus dignement possible, d'une certaine manière, au travers de tous ces rituels, ces rites funéraires, soi-même, dans ce travail, et Vanessa Cordier le disait, à la fois avoir donné une dernière toilette à Marylis, lui avoir choisi une belle robe, l'avoir parfumée, ensuite, dans la chambre funéraire, ce corps qu'elle est allée voir plusieurs fois, lui rendre visite, et même les enfants, les frères et sœurs de Marylis qui sont venus voir leur petite sœur, l'embrasser, lui faire une bise. Ça peut paraître presque troublant. On peut se demander des fois, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils sont prêts à faire tout cela, à aller embrasser un être cher qui est décédé, le corps mort, le corps froid. Et je crois que Vanessa Cordier et son mari ont pris la bonne décision, bien évidemment sans forcer les enfants, mais en tout cas en leur proposant, est-ce que vous êtes d'accord d'aller voir votre petite sœur qui est morte, ou bien ça peut être également avec mamie, papy ou même papa, maman quand il y a un décès tragique, de leur proposer qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, on vous y accompagnera. Et moi je crois, et c'est un petit peu ce que disait Vanessa Cordier, dans ces rites funéraires, l'un des points centraux, c'est d'oser cette confrontation à la mort, au corps, à ce corps froid, à ce corps inerte. En prendre soin au travers de la dernière toilette, de lui mettre une belle robe ou un bel habit, parfois mettre des dessins dans le cercueil comme l'ont fait, semble-t-il, Vanessa Cordier, les enfants, le mari, etc. Tous ces rites-là qui nous permettent d'une part de voir la mort en face, le corps, d'y faire face, de se rendre à cette évidence que oui, elle est bien morte, il est bien mort, même si, comme le disait Vanessa Cordier tout à l'heure, il y a un premier temps qui est un tel choc qu'il y a peut-être une forme de déni, ne pas y croire, c'est un rêve, c'est un cauchemar, elle va se réveiller, non, là je suis face au corps, elle est là, elle est morte, elle est froide. Heureusement, dans ce que disait Vanessa Cordier, elle avait un corps apaisé, et ça sûrement que c'est aidant. Et si elle avait ce corps apaisé, c'est peut-être parce que eux-mêmes l'ont accompagnée jusqu'au bout, en étant eux-mêmes dans la paix. Peut-être que le visage de Marylis en témoignait.
Alors, c'est dans ce que tu es en train de dire, Bernard, c'est le fait de pouvoir dire au revoir. Et on sait combien c'est difficile de faire un deuil lorsque la personne est portée disparue, que son corps n'est pas retrouvé. Oui. Donc, le fait de visualiser le corps, de pouvoir faire une mise en bière, accompagner lors d'une cérémonie, qu'elle soit religieuse ou pas, enterrer dans un endroit et savoir que la personne est à cet endroit-là, permet de concrétiser. Parce que la mort, c'est une séparation. Et donc, c'est finalement comment vivre cette séparation, sachant que dans notre vie, nous passons notre temps à vivre des petites morts, des séparations. Quand l'enfant part de la maison, il y a une petite mort, c'est je quitte quelque chose. Et on voit justement la séparation, l'enfant s'en va, mais un divorce est une petite mort. Enfin voilà, il n'y a pas que le deuil de la personne décédée physiquement. Et donc finalement, ce sont des chocs. Et psychiquement, ça entraîne toujours le fait de devoir bouger. On est obligé de... On ne peut pas rester indifférent. Comment ça se fait psychiquement? Comment le cerveau réagit à ça?
C'est sûr que les rites funéraires... Parce que tu parlais du deuil, moi je dirais du vrai deuil quand il y a la mort, parce que là, c'est une séparation irréversible. Alors que effectivement, dans ce que tu qualifiais tout à l'heure de petite mort, quand l'enfant s'en va et fait son chemin, bien évidemment, on le revoit toujours. Quand il y a une séparation, un divorce, pareil. Donc, ce sont sûrement, on peut peut-être parler de petite mort. Quand il s'agit de la vraie mort, il est clair que il faut. Et c'est là où on peut parler d'un travail du deuil, d'un chemin du deuil. Il y a diverses étapes et je crois, moi, que la première étape, c'est ce que l'on appelle parfois un choc initial, parce que l'annonce de la mort est vraiment parfois... comme inadmissible. Et là, d'ailleurs, Vanessa Cordier disait que ça l'a aidé, que l'infirmière prononce le mot « Marylis est morte ». Et je crois que c'était important, effectivement, que quelqu'un prononce le mot et qu'ensuite, au travers des soins qu'ils ont apportés à Marylis, il soit dans cette confrontation à ce petit corps mort. Parfois, quand c'est une personne adulte, le corps mort, le corps froid, le corps inerte qui ne bouge pas. Et c'est vrai que c'est un choc. Mais après, ce que je trouve important réellement dans les rites funéraires, c'est que ça organise, quelle que soit la culture, une sorte de progression. Si on se réfère au rite funéraire lié à la religion catholique, notamment, le fait qu'il y ait effectivement le corps qui est exposé, à qui l'on peut rendre visite, à qui on peut aller dire au revoir, comme tu disais tout à l'heure, dire adieu, je crois que c'est important. Ensuite, la mise en bière, et puis ensuite le cercueil qui est clos, et ensuite l'enterrement ou la crémation. Tout cela organise finalement une progression dans la séparation et, je crois, facilite réellement sur le plan psychique le deuil pour ceux qui restent. Et si on a pu accompagner la personne qui est morte chaleureusement, avec plein d'amour, comme l'évoquait Vanessa Cordier tout à l'heure, je crois que ça nous aide ensuite à faire ce travail de deuil. qui est un chemin personnel, même si, comme le disait Grand Corps Malade, on se sent plus fort quand on est entouré à ces moments-là.
D'ailleurs, dans les rituels d'enterrement, il y a un repas partagé souvent après ou une collation, ce qui veut dire qu'on reste dans le monde des vivants. Ouais. On mange, on se parle, et je pense que c'est fondamental. Ouais. Et alors, bien sûr que, comme tu le dis, une des premières phases face au deuil, c'est le déni, avec un choc qui est inimaginable, impensable et qui blesse énormément. Mais après, on passe sur l'acceptation d'une souffrance. Ouais. J'ai mal, je suis triste. Ouais. Avec la colère qui peut être là, on peut se sentir abandonné, en vouloir à l'autre d'être parti. Et donc, d'accueillir aussi cette détresse qui est souvent personnelle. On sait que dans une fratrie, quand on perd un parent, ça va être vécu souvent différemment, suivant les liens, la manière dont les liens parentaux ont été vécus. Et de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je fais de cette souffrance? Comment j'accueille cette étape qui peut être plus ou moins longue? Alors souvent, les personnes sont un peu induites en erreur parce qu'elles pensent qu'une fois qu'elles n'ont plus cette colère, c'est qu'elles ont fait le deuil. Or, le deuil a d'autres étapes, en fait, après. Ça ne veut pas dire qu'on a accepté. C'est du coup la phase de l'acceptation avec, oui, tu es parti. Et donc, accepter le mot fin. Accepter de ne plus avoir ces liens et du coup rentrer dans l'apprivoisement de l'absence qui est et l'apprivoisement de l'absence, c'est ce qu'a dit Vanessa, c'est à un moment donné on fait le tri des affaires, on vide le placard, on change la chambre et ça me rappelle un de mes patients qui n'arrivait pas à faire le deuil de son père parce que sa maman gardait l'urne funéraire chez elle. Donc chaque fois qu'il allait chez sa maman, il y avait l'urne qui était posée au-dessus de la cheminée. Et il y a un moment donné, c'est d'accepter de ne plus voir, de ne plus être en présence, même s'il y a toujours la présence dans le cœur, dans les souvenirs, dans l'amour qui est reçu. Il y a cette absence. J'apprivoise l'absence, je l'accepte, je n'oublie pas, mais je continue de vivre. Au-delà de ça, je peux faire le tri, et jusqu'à faire un tri de ce que je garde de l'autre, ce que je laisse partir, jusqu'à dire merci, en fait. Je continue à vivre.
Oui, tout à fait. Je crois que, au-delà de cette première phase, ce choc initial et peut-être le déni, comme l'évoquait Vanessa Cordier tout à l'heure, ça n'est qu'un cauchemar, etc. Comme tu le rappelles là, je trouvais trop mignon que avec les frères et sœurs, ils soient arrivés avec des croissants et qu'ils aient mangé. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a la mort. Sûrement qu'il faut y faire face. Elle est inacceptable au début, et puis finalement, il y a un travail d'acceptation, finalement, de l'absence, du vide. Mais il est clair que quand on est croyant, il y a aussi la foi qui aide. Mais en tout cas, dans mon cabinet, moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui sont croyantes. Certes, il y a cet espoir-là, mais n'empêche qu'il y a l'acceptation du vide, comme tu le disais, de l'absence. Grand Corps Malade le disait fort bien tout à l'heure, les absents qui sont toujours là, et c'est vrai que c'est une épreuve, c'est parfois une vraie souffrance et une vraie détresse d'accepter le manque, l'absence, le vide. Comment je vais réorganiser ma vie sans lui, sans elle? C'est un vrai chemin, et je crois qu'il est important de pouvoir se référer peut-être au souvenir, parfois, comme le disait Vanessa Cordier, la chambre que l'on ne touche pas un certain temps, les jouets, les affaires qu'on ne touche pas un certain temps. Et puis, ensuite, c'est pas que l'on oublie du tout, il s'agit pas d'oublier, mais il s'agit d'avancer, de vivre et d'accepter ce tri, de faire un tri entre ce que je garde et ce que je donne. Et ça, je crois que c'est une vraie étape forte aussi. Et j'entends tout cela, effectivement, dans mes consultations en cabinet chez le psychologue.
Il y a une étape du deuil que souvent on parle peu, c'est une étape de pardon. C'est-à-dire finalement de quelquefois se pardonner de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pu accompagner la personne ou de ne pas avoir vécu suffisamment avec elle. ce que l'on aurait voulu, hein, je pense à ce patient qui a pu accompagner son père dans ses derniers instants, mais qui avait vécu 10 ans de rupture relationnelle et qui a pu être dans une période de regret. Je n'ai pas été avec lui, c'est du temps gâché, et qui n'arrivait pas du tout à accueillir ce qu'il avait pu vivre dans les derniers instants comme réparation. Finalement. Et donc de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre d'être parti trop vite. Voilà, c'est pas toujours évident quand on est en couple de se dire on s'entendait bien et puis tout d'un coup il ou elle est parti. Ça a été foudroyant, un cancer en 6 mois. Enfin, voilà, il y a un côté d'injustice finalement, humainement, malgré toute l'espérance dont tu parles, grâce à la foi que l'on peut avoir. C'est trop tôt, c'est trop vite, c'est pas comme on le voulait.
Oui, on pourrait presque dire que toute mort est un scandale, réellement, ça explique ce choc initial de l'inacceptation, du déni. Mais je crois effectivement que la mort, le chemin qui vient après de ce chemin de deuil, c'est effectivement tout ce travail d'introspection, un petit peu comme ce patient que tu évoques, qui peut-être regrette cette rupture pendant 10 années où il n'a pas vu son père. Mais en même temps, en tant que psychologue, tu as dû sûrement travailler avec lui sur le fait que cette rupture de 10 années était sûrement nécessaire à ce moment-là. Il ne faut pas qu'il s'en veuille, il ne faut pas qu'il en veuille non plus à son père. C'était comme ça. Et je crois que dans le chemin de deuil, il y a aussi ce travail-là de retour finalement sur... tout ce que j'ai partagé de bon, de moins bon, de difficile parfois avec la personne qui est morte. Et c'est ce travail d'introspection que nous faisons dans ce chemin de deuil. Et parfois, comme tu l'évoquais, pardonner à l'autre quand il n'a pas été trop bon ou qu'elle n'a pas été trop bonne. Se pardonner à soi quand peut-être je n'ai pas été trop bon moi-même, etc. Donc tout ça fait partie de ce temps après la mort, de ce chemin du deuil que nous avons à faire.
Nous faisons une nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons, Bernard, pour continuer d'évoquer le deuil.
Et
présence. Vivante Église, Marie Binet.
Pour les auditeurs qui nous rejoindraient aujourd'hui, nous abordons un thème qui est très présent dans notre vie et pour le moins difficile. C'est la vie, la mort est là, vive la vie. Avec Bernard Coulot, nous abordons cette étape, je dirais, de nos vies qui pourrait en marquer la fin. Mais comme vient de dire la chanson, nous sommes plongés dans la mort de Jésus et aussi dans sa résurrection en plein temps pascal. C'est bienvenu. Alors nous parlons du deuil, Bernard. Il y a des moments où les deuils ne sont pas faits, on pourrait dire des deuils pathologiques, quelles seraient les incidences? Alors on peut d'autant plus en parler puisque depuis les deux dernières années, beaucoup de nos concitoyens ont été en difficulté pour faire le deuil, n'ayant pas pu être présents au moment de la mort dans cette situation de Covid.
Oui, c'est sûr que les dernières années ont été vraiment éprouvantes. Pour nous tous en tant qu'adultes, pour les enfants aussi. Moi, je me rappelle avoir reçu les enfants après l'attentat des tours à New York. Et je me rappelle de deux dessins que m'avaient fait des petits garçons qui devaient avoir 6 ou 7 ans. Et ce qui les avait marqués, parce que les médias... c'est leur rôle, ils nous passent des images en boucle, et je me rappelle, lors de cet attentat à New York, il y avait en boucle toute la journée ces avions qui percutaient les tours, et les deux enfants que j'avais vus là, quelque temps après, m'avaient fait des dessins avec des corps qui tombent, des tours, c'est-à-dire très certainement des personnes qui, prises par le feu ou par la crainte de l'effondrement des tours, avaient préféré se jeter par la fenêtre. Et ces enfants-là avaient été profondément choqués, troublés par la vue, la vision de ces hommes, de ces femmes qui se jetaient par les fenêtres, une sorte de mort inexplicable. Et peut-être des enfants qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir en parler avec leurs parents. Et je crois que là, tout récemment, ces dernières années, la Covid... Aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il est clair que notre télévision montre des images qui sont fortes, très fortes, et parfois troublantes pour des enfants. Ce qui m'amène à dire qu'il est important, je crois, quand on a des enfants et qu'ils voient ces images, d'être là, à leur côté, et de répondre à leurs questions quand il y a des questions, d'apaiser. Tout à l'heure, dans ce que racontait Vanessa Cordier, je crois que les enfants ont pu être bien parce que eux-mêmes, mère et père, étaient relativement apaisés avec la mort de leur petite fille Marie-Lys. Et je crois que face à des images très fortes, très troublantes, il est absolument essentiel que des adultes soient là et essaient d'apaiser les enfants ou de leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on a 5, 6, 7, 8 ans, peut-être qu'on n'est pas prêt psychiquement pour accueillir de telles images.
Alors en même temps, la mort est questionnée par les enfants, hein. On le sait, entre 5 et 7 ans, ils prennent conscience de cette mort. Et je prends l'exemple d'une de mes patientes qui en a été assez inquiétée. Ses parents avaient cru la rassurer, mais quand sa grand-mère est décédée, ses parents lui ont dit « mais t'inquiète pas, elle est juste partie au ciel, on la reverra ». Et du coup, elle passait son temps à attendre sa grand-mère qui allait revenir du ciel. Donc comment poser des mots pour que justement ça ne laisse pas des deuils non faits, non finis, qui ressurgissent en fait à l'âge adulte finalement?
Oui, c'est très compliqué d'expliquer à des enfants la mort. Et c'est vrai que même quand on est croyant, c'était sûrement le cas de cette famille ou des parents de cette patiente que tu vois aujourd'hui, ils étaient croyants et ils lui ont dit « on la reverra ». Sauf que c'est quand même flou pour cet enfant-là. Même quand on dit parfois, tu sais, il est parti au ciel. Moi, je me rappelle d'une petite fille qui me disait « mais elle doit être mamie avec le Père Noël, quoi ». C'est-à-dire que le Père Noël, il est au ciel et du coup, mamie, elle doit y être avec. Et je crois que c'est compliqué. Moi, c'est pour ça que je trouve important que les enfants, on les associe dans la mesure du possible et dans la mesure aussi de ce qu'ils sont prêts ou qu'ils demandent à faire. Je rencontre des fois des enfants qui regrettent vraiment qu'on les ait écartés au moment de la mort d'un des membres de la famille et des petits garçons, des petites filles qui me disent « Pourquoi on ne m'a pas fait confiance ? J'aurais aimé être là, j'aurais aimé être là aux cérémonies, pourquoi pas faire une bise à papy, à mamie, à papa, à maman, quand elle est décédée. » Je crois, moi, que quand il y a une mort dans une famille, il faut sûrement faire en sorte que les enfants ne soient pas écartés, qu'ils y soient associés, mais qu'on leur en parle et qu'on voit avec eux ce qu'ils sont prêts à faire ou pas prêts à faire. Et ça me paraît vraiment très, très important.
En même temps, le fait d'écarter l'enfant, n'est-ce pas aussi parce qu'il y a une difficulté pour l'adulte à vivre cette période-là, avec ses propres peurs, ses doutes et une projection, je dirais une difficulté à assumer ce temps-là pour lui-même.
Oui, souvent, les parents peuvent dire c'est pour protéger l'enfant, et je crois que tu as raison, c'est des fois aussi pour se protéger soi en tant que parent, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir en parler à l'enfant, comment on va pouvoir répondre à ses questions, parce que parfois on a peur que l'enfant nous voit pleurer. Or moi je crois que pleurer c'est important, c'est une manière aussi d'extérioriser ma peine, mon chagrin, et je crois que quand l'enfant voit maman, papa, mamie, papy ou qui que ce soit qui pleure, ça lui permet aussi de se dire les émotions sont possibles, mon émotion à moi aussi, et pourquoi pas m'autoriser à pleurer moi aussi, ou faire un dessin, ou pourquoi pas être en colère par rapport à cet être cher qui est parti. Et tout à l'heure, tu posais la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne n'a pas pu être présente dans les derniers moments, parce qu'elle était loin, ou parce que ça n'a pas été possible pour X raison. Moi, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a encore quand même des cimetières, il y a encore des columbariums, il y a encore l'endroit de l'accident, enfin, tous ces lieux, finalement, où je peux me rendre pour me recueillir, pour peut-être être dans un échange avec la personne qui est partie. Et parfois, je rencontre des personnes dans mon cabinet qui me disent « j'ai besoin d'y aller une fois par semaine, je change les fleurs », ou bien d'autres qui disent « j'ai écrit une lettre et j'ai déposé cette lettre sur la tombe avec un caillou dessus, peut-être qu'elle restera un certain temps, pour lui dire à cette personne qui est partie et que j'aimais tant, pour lui dire des choses ». Et je crois que ça, c'est vraiment très très important. On a besoin de lieux où on puisse se recueillir. Et ça me paraît vraiment, en tout cas dans notre culture à nous, très très important, même si on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de crémations, et tu l'évoquais tout à l'heure à propos d'une patiente, et l'urne était encore à la maison. Et ça, je trouve que ça rejoint un peu un deuil non fait. Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit qu'il est important que le village des morts soit à l'écart du village des vivants. Et je crois que ça, c'est très important. Même quand il y a une crémation, qu'il y a les cendres qui sont recueillies, je crois que l'urne, moi, je préfère que l'urne soit dans un columbarium. Ou pourquoi pas, même si je crois que c'est interdit aujourd'hui, qu'elle soit répandue, mais dans les cimetières, il y a aussi une partie qu'on appelle le jardin du souvenir, où on peut répandre les cendres. Je crois que tout ça, c'est important. Faire en sorte que la personne qui est morte, que ses restes soient à l'écart de ma maison, où la vie doit reprendre et où la vie doit continuer.
Et ce qui n'empêche de toute façon pas de garder quelque chose, il y a une page qui se tourne, mais il y a une chose qu'on garde toujours, et je pense qu'en tant que croyant, c'est l'essentiel, c'est l'amour. Cette personne nous a donné de l'amour, nous lui en avons donné, et cet amour nous a nourris, et finalement, c'est ce que nous allons transmettre. Donc comment nous restons vivants dans cet amour ? La mort ne l'arrête pas, ça. Et ça, c'est l'essentiel, souvent, quand les personnes ont du mal à dire au revoir. Je leur dis, mais laissez partir cet être cher, ça n'est pas tout laissé partir. Il y a quelque chose de lui ou d'elle que vous gardez. Comment aujourd'hui vous en êtes vivant vous-même finalement? Et ça, je pense que ça remet debout, ça redonne beaucoup d'espérance. Et c'est ce que l'on va transmettre aux enfants. Ça, tout ne s'arrête pas là, en fait. Et cet amour, c'est quelque chose qui est qui ne peut pas s'arrêter, en fait. Et...
Alors ça, c'est sûrement ce qu'on pourrait appeler la troisième étape ou la troisième phase du deuil, c'est effectivement ce temps de l'acceptation et finalement comprendre que c'est pas en gardant ses affaires dans la chambre, c'est pas en gardant la chambre que l'on ne touche pas, que finalement on garde... la trace de cet amour. L'amour, il est dans le cœur. Et sûrement que cette dernière phase du deuil, c'est cette phase de l'acceptation et de cette compréhension que c'est pas dans les objets, même si c'est important sûrement, et de garder quelques objets, mais c'est de savoir que cette personne qui est morte, cette personne qui est partie, cette personne que je ne vois plus, je l'ai dans le cœur. Et cette présence-là, elle est pour la vie.
Alors, on va terminer l'émission sur une petite ouverture que je me permets de faire par rapport à cette émergence aujourd'hui des métaverses qui vont permettre de continuer à faire vivre à travers des avatars les personnes qui sont décédées. Donc finalement, dans un monde parallèle, numérique, complètement virtuel, comment allons-nous faire pour faire nos deuils, sachant qu'on pourra continuer à converser avec une personne qui pourtant est décédée?
Alors ça, je dois dire que je ne suis pas très connaisseur de tout cela, mais n'empêche que moi, je crains, mais peut-être que c'est mon côté un peu psychologue, un peu vieux jeu, je crains justement que ça n'aide pas au deuil. Je le crains, hein, tout à l'heure, quand tu évoquais cette patiente qui a toujours les cendres à la maison. Pareil, si effectivement nous avons des images numériques ou cet espoir de pouvoir communiquer encore au travers de ces images numériques-là, je ne sais pas. Je suis en doute, en tout cas, en tant que psychologue, sur cet apport-là, j'en doute. Je crois que le deuil, c'est vraiment l'acceptation de la mort, aussi terrible soit-elle, et d'oser vivre ensuite, peut-être vivre pour deux, en se disant « je vis pour moi, mais aussi pour cet autre que je porte dans mon cœur ».
Merci beaucoup Bernard pour ce partage. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Présence. Bonne journée à tous, au revoir.